Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je suis heureux de vous saluer ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous? Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Eh bien, nous sommes heureux, comme je le dis souvent quand je prends la parole, de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait cette promesse merveilleuse qu'il se plaît à accomplir à chaque fois que nous sommes assemblés en son nom, quand deux ou trois sont réunis en mon nom. Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Alors ce matin, Jésus-Christ est au milieu de nous. Et le travail du Saint-Esprit dans ce moment que nous allons partager dans sa présence, eh bien, va consister à faire en sorte que, au travers soit le message de la bonne parole de Dieu qui tout à l'heure nous sera donné, soit à travers l'action du Saint-Esprit pour pouvoir diriger le service, tous nos regards se fixent sur notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a été, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et qui nous est montré couronné de gloire et d'honneur. Est-ce que vous dites amen? Et pourquoi a-t-il été couronné de gloire et d'honneur? Eh bien, la Bible dit c'est à cause de la mort qu'il a soufferte. Et puis, le Saint-Esprit prend soin de rajouter qu'il convenait ainsi que celui par qui et pour qui sont toutes choses, c'est-à-dire Dieu notre Père Céleste, et qui voulait amener à la gloire beaucoup de fils, vous et moi, ainsi que tous ceux qui ont expérimenté sa grâce, il est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. C'est pourquoi il n'y a pas de honte à les appeler frères. Et ce matin, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Et tout à l'heure, pendant que mon frère Bruno nous faisait chanter ce cantique, eh bien, le Saint-Esprit mettait dans mon esprit, je vous fais partager mes secrets avec le Saint-Esprit. Alors, il mettait dans mon esprit cette pensée en ce qui concerne l'amour que je suis venu manifester et dans ce service où je suis venu rendre le culte à mon Dieu. Et certes, je suis venu pour rencontrer Jésus-Christ. Amen. Mais cet amour que je dois manifester dans la présence de Dieu en Jésus-Christ, mon Seigneur, eh bien, je dois le manifester déjà à côté de moi au travers de mon frère. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, le Saint-Esprit, dans la bouche de l'épître de Jacques, la bouche de l'apôtre Jacques, dans son épître, il dit là que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. Alors si j'ai revêtu Christ, si mon frère a revêtu Christ, eh bien spirituellement, en regardant mon frère, je ne dois pas voir ses défauts. Je ne dois pas m'arrêter sur ses lacunes, ses manquements, mais je dois voir Christ en lui. C'est là la première manifestation de l'amour de Dieu. Je dois voir Christ en mon frère. Et mon frère Folo, je vois Jésus-Christ en toi ce matin. Dis à ton frère que tu vois Jésus en lui ce matin. Dis-le lui. Voilà, dis à ton frère, oh, c'est vrai, nous sommes loin, mais bon, enfin, faisons comme nous pouvons, même si à la distance, dis-lui, mon frère, je vois Jésus au travers de toi. Et dis-lui, je t'aime en Jésus-Christ, amen. Car c'est un travail que Satan n'aime pas, frères et sœurs en Christ. Il voudrait que nous puissions nous détester, voir tous nos défauts. Mais ce matin, nous lui fermons la bouche au nom de Jésus-Christ. Et je dis à mon frère Folo, je t'aime en Jésus-Christ, mon frère. Alléluia. J'aime mon frère en Jésus-Christ, parce que je vois Christ en lui. Il a fait une expérience qui n'est pas la même que la mienne. Mais une fois qu'il a été baptisé, engagé, il a revêtu Christ. C'est un revêtement qu'il porte. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est dit ceci, que tes sacrificateurs soient revêtus de salut. Et ce matin, avant de revêtir Christ, ou si j'ai revêtu Christ, c'est parce que j'ai revêtu le salut. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc, ça veut dire que derrière ce mot revêtir, il y a l'idée de ce que je dégage, ce que je montre par le témoignage. Et au travers de cela, frères et sœurs en Christ, vous tous, vous comme moi, nous avons ce matin un témoignage à rendre. Dieu nous a choisis, certes, il nous a fait expérimenter son salut. Et comme je disais dimanche dernier, le but premier pour lequel il nous a fait devenir ses enfants, c'est pour que nous puissions servir à la louange de la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Frère gentil, pasteur, synthétisez-moi ça, s'il vous plaît. Eh bien, Dieu nous a choisis pour pouvoir le servir. Mais dans ce service, il met en évidence la louange. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, de ses enfants. Alléluia. Et dans le fonctionnement spirituel, dans les réalités spirituelles dans lesquelles Dieu nous a introduits, certes, nous avons la prière. Et certains pensent que peut-être ils peuvent passer toute leur vie à prier Dieu. Mais écoute, même si tu passes toute ta vie à prier Dieu, Dieu va exaucer certaines de tes prières, peut-être même beaucoup, mais il y a des prières que Dieu ne va pas exaucer parce qu'elles ne sont pas faites dans sa volonté. Si nous demandons, dit Jésus, quelque chose selon sa volonté, nous croyons qu'il nous écoute. Et si nous croyons qu'il nous écoute, nous croyons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Il n'y a qu'un seul à qui Dieu a donné tous les exaucements. C'est son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, dans la communion avec le Père, savait comment se comporter, quoi demander. Et lorsque, dans le jardin de Gethsémané, il adresse à Dieu une prière que vous connaissez, laquelle, pasteur gentil, « Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi sans que je la boive, cependant, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Oh, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier, mais Dieu n'a pas éloigné la coupe, car c'était le chemin que Dieu avait préparé, que Jésus devait emprunter, car c'est là qu'il devait connaître par anticipation de la croix les angoisses de son âme sainte qui sentait arriver le poids du péché de l'humanité qu'il devait porter. Frères et sœurs en Christ, nous avons la personne de Jésus, l'être le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus extraordinaire. Et son amour, eh bien, son amour me dépasse. Je suis dépassé par l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus. Et je suis dépassé par l'amour de Jésus à mon égard. Moi, pauvre prêcheur, moi, petit bonhomme dans l'univers qui vivait ma vie comme bon me semblait, mais là, au travers de cette œuvre grande et glorieuse, Romains 5, 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous racheter. Et ce matin, nous sommes venus pour le remercier, pour le célébrer, pour le louer, pour le bénir, pour glorifier son Saint-Nom, pour élever sa majesté et pour montrer à notre Dieu notre profonde reconnaissance eu égard à tout ce qu'il a permis que Jésus fasse pour que ce matin nous portons ce titre glorieux d'enfant de Dieu. Eh bien aimé, ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Et nous allons voir ce matin, comme l'avons vu hier d'ailleurs, dans quel pâturage divin, ce matin, le Saint-Esprit va nous conduire et comment Dieu notre Père Céleste, comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus a dit quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais dans ce qui ressemble fortement à la future promulgation du salut par la grâce de Dieu, alors que nous sommes dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, Dieu entrevoyant le travail qu'il allait accomplir pour mettre en place la nouvelle alliance, par son serviteur Jérémie au chapitre 31, verset 31, eh bien, il commence par montrer, et c'est une prophétie qui va s'accomplir au travers de l'œuvre de Jésus, Dieu dit, par Jérémie, son serviteur, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et puis, il donne quelques particularités concernant cette alliance, non comme l'alliance que je conclus avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sortirent, quand je les ai sortis d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Et Dieu dit, voici maintenant l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Dans la première énoncée, il dit les deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda. Mais dans la continuité, lorsqu'il va donner quelques précisions, il ne fait plus mention de la maison de Juda. Mais il parle de la maison d'Israël. Et dans ce cadre-là, il faut que nous soyons intelligents et spirituels pour comprendre que derrière cela, il y a l'Israël céleste. Parce que les particularités qui sont données nous le montrent. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Et dans cette alliance nouvelle, Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et puis il dit, Nul n'enseignera son prochain, ni celui-là son concitoyen, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, dit l'Éternel, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Nous savons, frères et sœurs en Christ, que la loi a été donnée à Moïse avec des prescriptions écrites par le doigt d'un ange, ou le doigt de Dieu, si vous préférez. Donc, c'était des inscriptions écrites sur des tables. Mais Dieu dit maintenant, ça c'est fini, ça. Je vais écrire les lois dans leur cœur. Je vais les graver dans leur esprit. Et à ce moment-là, nous sommes sur le terrain. Dites avec moi. Ingrid, aide-moi, s'il te plaît. Nous sommes sur le terrain spirituel. C'est un terrain spirituel. Je vous ai bien fait la différence entre ce qui est gravé sur les tables et ce que Dieu dit, je vais l'écrire. Est-ce que vous le voyez écrit dans votre cœur? C'est spirituel. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de l'Israël céleste. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, frères et sœurs en Christ, le bon berger Jésus-Christ qui est au milieu de nous, va nous donner à recevoir de sa part la nourriture au temps convenable. Si moi j'étais berger, eh bien je me réjouirais de pouvoir diriger mes brebis là où il y a de la bonne herbe. Bonne herbe verte, fraîche, non polluée. Parce que dans ce cadre-là, je poursuivrai le dessein que mes brebis étant bien nourries, elles puissent produire, dites avec moi, du bon lait. Ah. Et qu'avec le bon lait, je puisse manger du bon fromage. C'est le produit, ce que produit la brebis. Et puis, quand le moment sera venu, avoir aussi l'occasion de tondre mes brebis et qu'avec la bonne laine récoltée, je me fasse un bon vêtement pour bien meurer. Alors ce matin, Jésus, le bon berger, est au milieu de nous. Et en sa qualité de bon berger, ce qui est merveilleux, différemment de moi, petit berger, non seulement il sonde nos cœurs et nos reins, il connaît nos attentes, nos besoins, il connaît nos combats, nos luttes, nos chutes, mais ce qui est formidable, que quoi que connaissant la brebis blessée, la brebis chétive, la brebis souffrante, la brebis lassée, la brebis découragée, enfin, il connaît chaque particularité concernant chaque brebis. Mais ce qui est formidable, c'est qu'en sa qualité de bon berger, il a toujours les soins appropriés. Et comme il a pris lui-même le soin de le rapporter dans l'évangile de Luc, au travers de cette parabole communément appelée la parabole du bon samaritain, encore, peut-on penser qu'un samaritain soit bon? Ah oui, parce que, écoutez, dans le contexte de l'époque, si vous vous appeliez samaritain vis-à-vis des juifs, vous étiez comme quelqu'un de peu recommandable, puisque juifs et samaritains n'avaient pas d'accord entre eux. Pourquoi? Pourquoi, pasteur Gentil? Expliquez-moi pourquoi, pasteur Gentil, dans ce cadre-là, juifs et samaritains n'avaient pas d'accord entre eux. Eh bien, c'est pas compliqué. Je vais vous l'expliquer. Ça vous rappelle quelqu'un? Je vais vous lire. C'est que les samaritains, il faut regarder leur origine. Les samaritains, c'était d'anciens babyloniens, qui était venu occuper l'ancien territoire d'Éphraïm lorsqu'il y a eu une déportation d'une partie du peuple de Dieu à Babylone. Alors, ils sont venus de Babylone occuper l'ancien territoire d'Éphraïm. Ils se sont installés là avec une partie de leurs coutumes païennes. Et malheureusement, ils ont adopté aussi les coutumes du pays. C'est bien qu'il y avait un mélange de paganisme, d'idolâtrie et de judaïsme. Oh, vous savez que les juifs adorent un seul Dieu. Alors ils voyaient avec déplaisir que ces anciens Babyloniens qui sont venus habiter le territoire de la Samarie, parce que c'est l'ancien nom que portait ce territoire, eh bien, ils se livraient à certains actes d'idolâtrie, et en même temps, ils prétendaient servir l'Éternel. Tellement ils étaient accrochés aux coutumes du judaïsme, ils prétendaient même que Jacob était leur ancêtre. Ben oui, c'est ce qu'on a dit, elle a dit à Jésus, hein. Es-tu plus grand que Jacob, notre ancêtre, qui a bu dans ce puits, lui avec ses troupeaux? Alors, frères et sœurs en Christ, la raison c'était que il y avait un mélange de paganisme et de judaïsme chez les Samaritains. Voilà pourquoi Juifs et Samaritains n'avaient pas de relation entre eux. Mais malgré tout, Jésus, sachant cela, s'est quand même arrêté auprès du puits de Jacob. Ça, c'est quand Dieu veut faire grâce à quelqu'un, il met en place toutes les conditions réunies. Alors, dans ce cadre-là, Jésus va nous parler dans la parabole dit du bon Samaritain, un homme qui descendait de Jéricho à Jérusalem ou de Jérusalem à Jéricho. C'est un chemin qui était particulièrement dangereux. Tellement il était dangereux, cette route avait été appelée pour l'époque la route du sang. C'est une route où il y avait beaucoup d'attentats, de crimes. Alors là, cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il a été rencontré par des brigands qui l'ont roué de coups et qui l'ont laissé à demi-mort sur le bord de la route. Et voici que le Seigneur Jésus parle, il dit, un docteur de la loi qui descendait, l'ayant vu, il est passé outre. Un lévite qui passait aussi fortuitement, l'ayant vu, il est passé outre. Explication. Le docteur de la loi nous parle de ce qui est religieux. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais ils n'ont pas de miséricorde, ni de compassion. Le lévite nous parle des pratiques religieuses. Les pratiques religieuses peuvent sembler à quelqu'un très importante, mais on peut pratiquer toutes les œuvres religieuses qu'on veut. Et tout à l'heure, je te disais, mon frère, quand je vois l'amour de Dieu que je manifeste, parce que je vois que tu as revêtu Christ. Eh bien, quand vous voyez que votre frère a revêtu Christ, quand vous voyez Christ en lui, eh bien, vous ne passez pas outre lorsque vous savez qu'il est dans une situation, mais vous pratiquez à son égard la miséricorde. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est. Voilà, nous sommes sur le bon terrain. Alors, mais ce Samaritain qui passait par là aussi, l'ayant vu, il s'est arrêté. Il a pansé ses blessures avec de l'huile et du vin. Mais moi, quand je pars en voyage, je ne pense pas à prendre de l'huile et du vin. Je vais en voyage, je prends mon nécessaire de voyage, et tout ce qui me sera nécessaire lorsque je serai arrivé sur le lieu où je vais prendre mes vacances, où je vais me reposer, où je vais. Mais là, pour montrer en sa qualité de bon samaritain, Jésus-Christ nous montre qu'il a toujours les ingrédients qu'il faut pour les utiliser au bon moment et sur la bonne personne. Alléluia. Mais bien sûr. Et après qu'il ait prodigué les soins nécessaires à celui qui était blessé, tombé au milieu des brigands, eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Il a mis sur sa monture, il a mené à l'hôtellerie, il a donné des directives à l'hôtelier, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras pour t'occuper de lui, alors moi je te le rendrai à mon retour. Quel égard! Et ce matin, je crois que le même Jésus est au milieu de nous ce matin. Il connaît ta situation, il connaît la mienne, il connaît mes combats, mes souffrances, mes attentes, mes besoins. Il sait tout de moi. Et c'est pourquoi ce matin, au travers de sa parole, il va me donner à être fortifié. Alors, pour me fortifier, il m'amène à regarder dans le psaume 127, où nous sommes sur le terrain de ce qu'on a appelé communément, c'est l'Écriture qui le définit ainsi, les psaumes des degrés. Psaume de degrés commence par le psaume 120. On voit le psalmiste mentionner ceci dans ma détresse. Donc c'est, ça s'ouvre par la détresse. C'est à l'Éternel que je crie. Et il m'exauce. Ça commence par la détresse. Et le dernier psaume dit des degrés, le psaume 34, qui est un cantique, finit par l'allégresse ou par la louange. Gloire à Dieu. Mais ça veut dire que derrière ce que nous lisons ou ce que nous devons comprendre, c'est que s'il commence par la détresse et finit par la louange, cela veut dire que ce n'est pas autre chose que le résultat de son expérience personnelle. David était un homme de la même nature que nous. Et en tant que roi d'Israël, en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que roi d'Israël et de Juda, il a connu, excusez-moi de vous dire, des vertes et des pas mûres. Mais ce qui est formidable, c'est que à diverses situations de sa vie, lorsqu'il était confronté à certaines difficultés, alors il mettait cela en chanson. Il écrivait des psaumes qui étaient des cantiques, et après avoir écrit les cantiques, il les confia à Jédudun, le chef des chœurs, et Jédudun préparait la musique pour que ces cantiques soient interprétés, chantés et servent à glorifier Dieu. Amen. Et ce matin, frères et sœurs en Christ, au travers de ce que nous partageons dans le psaume 127, il va nous mettre sur le terrain que j'ai qualifié comme étant le conditionnel divin. Un conditionnel divin. Il y a des conditionnels humains dans la Bible, mais ce matin, nous allons voir au travers de ce qui est dit le conditionnel divin. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et puis voici ce qu'il déclare pour agrémenter la pensée qu'il veut exposer. En vain vous levez-vous de bon matin. Vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de... C'est quand même bizarre, on se lève de bon matin. Si on se lève de bon matin, c'est parce qu'on a une activité. Il y a des choses que nous voulons accomplir. Si on se couche tard, c'est parce qu'on n'a pas fini ce qu'on devait faire. Et là, il dit, en vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et malgré tout, vous mangez le pain de douleur. Et pour montrer quand les choses sont mises en place, comment Dieu les réalise, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Frères et sœurs, Dieu nous apprend ce matin que pendant que nous dormions hier soir, j'espère que personne ne dort ce matin, c'est pas le moment de dormir là. Pendant que nous dormions hier soir, Dieu avait préparé des choses qu'il devait nous donner. Écoutez, je viens de vous dire que le bon samaritain, il est parti pour voyager et il a pris soin de prendre de l'huile et du vin parce qu'il savait ce qu'il allait advenir. Eh bien, de la même manière, ce matin, notre Père Céleste qui est au milieu de nous, je rappelle que pendant que tu dormais hier soir, il t'avait préparé des choses bonnes pour ton âme, bonnes pour ta vie, bonnes pour la vie de ta foi, bonne pour alimenter ta patience, bonne pour te conduire sur le chemin de la persévérance, bonne pour structurer ta vie comme son enfant avec le modèle que nous avons en la personne de Jésus-Christ notre Seigneur. Il connaît ton état de santé, il connaît tes besoins, il sait tout de toi. Voilà pourquoi ce matin il te dit, ne t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. Certes, on peut... Comme je vous l'ai déjà expliqué quelquefois, on peut être inquiet, et l'inquiétude qui est un sentiment qui malheureusement peut se retrouver dans le cœur même d'un enfant de Dieu. Eh bien, l'inquiétude, quand on la considère, elle a deux sources particulières. Et ce sont toujours les deux mêmes qui se mettent en fonction ensemble et qui font malheureusement des ravages à l'intérieur. La première source de l'inquiétude, c'est ce que mes yeux voient. Ben oui, quand mes yeux voient les choses, automatiquement, le travail de Satan va consister à les grossir devant moi de telle manière que je sois placé sur le terrain des impossibilités dues à mes incapacités. Et dans ce cadre-là, Satan est le champion. Mais tu vas pas y arriver. Et rapidement, frères et sœurs, que si j'accepte ce qu'il me propose, les difficultés vont commencer à l'intérieur. On va gamberger dans mon esprit. Et vous savez que notre esprit, vous comme moi, notre esprit, est un champ fertile pour les spéculations. Et c'est un terrain que l'ennemi de notre âme, particulièrement, s'est alimenté en envoyant des flèches. Le second terrain de l'inquiétude, avec ce que mes yeux voient, c'est ce que mes oreilles entendent. Et vous avez remarqué que j'ai pris soin de vous montrer les yeux et les oreilles. Donc, nous sommes sur le terrain des sens, dites avec moi, les sens naturels. Les yeux, c'est la vue. Et les oreilles, c'est l'ouïe. N'est-ce pas? Alors, je mange ce matin par quoi? Ah, par la foi. Alors, si tu manges vraiment par la foi, tu n'as pas à être inquiet. Si vraiment nous marchons... Oh, ah, attendez, je vais m'exprimer différemment. Ce sera plus compréhensible. Je vous aurais dit, ce sera plus mieux. Non, ça se dit pas. Ce sera mieux. Si je marche par la foi, je ne suis jamais inquiet. Pourquoi, pasteur gentil? Parce que la foi m'amène toujours aux promesses. Et la Bible est remplie de promesses dont ma foi s'empare. Et quand ma foi s'empare des promesses de l'Écriture, toute inquiétude est bannie. Pourquoi? Jésus m'a dit, Claude, de ne pas t'inquiéter de ce que tu mangeras, de ce que tu boiras. Ni de quoi non plus tu seras habillé. Toutes ces choses, Claude, ce sont les païens du monde qui s'en inquiètent. Est-ce que tu es païen ou tu es chrétien? Est-ce que tu es juste ou tu es au rang des méchants? Dieu t'a fait devenir juste au travers de l'expérience, de la repentance et de la conversion en Jésus-Christ. Donc ce matin, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Pourquoi? Tu appartiens au Dieu Tout-Puissant. Et quand je dis tu appartiens au Dieu Tout-Puissant, c'est pas parce que toi tu l'as voulu, parce que l'Éternel a commencé à bâtir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. La Bible nous dit que les hommes travaillent pour le feu. Beaucoup travaillent, ils dépensent beaucoup d'énergie parce qu'ils sont ambitieux. C'est bien d'avoir de l'ambition. Mais une ambition qui viendrait de sentiments en moi qu'on appelle l'orgueil me fera déplacer toutes sortes d'énergie, toutes sortes, et je brasserai finalement beaucoup d'air. Et puis à la fin, une fois que j'aurai dépensé toutes mes forces, malheureusement je verrai que ce que j'ai bâti, tellement j'ai dépensé de l'énergie et des forces, je ruine ma santé et je n'ai même pas le temps d'en profiter. Mais quand c'est Dieu qui bâtit, il a résolu de bâtir avec moi, il me donne la sagesse, l'intelligence, il me donne la capacité de bien gérer, et de ne pas me reposer sur mes propres forces, mais de me reposer sur sa force à lui. Et pour me reposer sur sa force à lui, vous savez ce qu'il fait? Il me conduit à me placer sous sa dépendance. Quand je suis placé sous la dépendance de mon Dieu, je fais les choses qu'il faut, comme il faut, quand il faut, de la manière qu'il faut. Mais bien sûr, mes bien-aimés. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et Dieu a commencé à bâtir ma vie, ta vie comme son enfant. Or, dans cette maison que tu es devenu, eh bien, il y a une particularité que le Saint-Esprit met dans la bouche de Moïse. et qui se trouve mentionné dans les lois dites de fraternité, qui se trouve dans le livre du Deutéronome, cherchez pas, Deutéronome chapitre 22, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Mais il est dit ceci, si tu bâtis une maison neuve, tu mettras une balustrade à ton toit, de peur que si quelqu'un tombait de ta maison, il ne puisse mettre du sang sur ta maison. Tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur gentil? Eh bien, ça veut dire, c'est pas compliqué. Quand nous lisons, si tu bâtis une maison neuve, ça veut dire quand tu seras devenu une nouvelle créature, une maison neuve, une nouvelle créature, alors, pour que tu aies un véritable témoignage, et que tu ne sois pas pour les autres une occasion de chute, sanctifie-toi, mets une barrière à ton toit. Ben oui. Et quand Dieu bâtit avec nous comme ses enfants, il nous rend sages et intelligents. Il nous montre comment nous devons nous comporter. Vous savez, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça, c'est une quelque chose que nous connaissons tous comme enfants de Dieu. Mais connaître quelque chose, c'est une chose. C'est vrai, c'est le cas de le dire. Mais vivre la chose que je connais, il me faut véritablement, eh bien, l'action du Saint-Esprit de manière particulière et personnelle. Et dans ce cadre-là, frères et sœurs en Christ, vous comme moi ce matin, nous avons un grand privilège. Mais quel pasteur gentil. Non seulement dans le processus divin, nous avons été choisis. Est-ce que vous savez que vous avez été choisis? Ah bon, attention, hein. Jésus nous a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai envoyé afin que vous portiez du fruit. Afin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. N'est-ce pas? Donc c'est Jésus qui nous a choisi. Donc nous sommes l'objet du choix divin. Bon, j'ose même pas vous amener à Éphésiens 1, vous le connaissez comme moi. N'est-ce pas? Et après que nous ayons été choisis, Dieu, pour nous démarquer du commun des mortels, la Bible dit, nous a sanctifiés par la sanctification de l'Esprit, la séparation de l'Esprit qui gouverne le monde, pour que nous puissions lui appartenir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a choisi, il le met de côté. Et ce que Dieu met de côté après l'avoir choisi, il le remplit du Saint-Esprit. L'expérience de la nouvelle naissance. Et après, il les place sur le chemin de la persévérance. De sorte que le Saint-Esprit en lui va produire comme un moteur pour jour après jour, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, on continue à avancer sur le chemin de la persévérance. C'est ce que l'apôtre appelle aller de progrès en... Oh, attention, on n'allait pas dire que le passage gentil a dit, il faut que je fasse des pas de géant. Non, c'est pas ça. Même d'abord, si tu voudrais faire des pas de géant, tu ne le pourrais pas. Tu irais à la mesure que Dieu permette. Mais l'important, c'est pas que tu fasses comme les autres. C'est que tu sois toi et faisant les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites pour toi dans ta vie. Car si tu veux regarder aux autres, tu vas t'égosiller. Et en plus, si tu vas t'égosiller, tu vas te décourager parce que tu n'iras pas aussi vite que tu voudrais. Non, je suis pas là pour aller comme les autres. Je vais comme Dieu veut que j'aille. Mais l'important, c'est que j'avance. Alléluia. J'avance avec mon Seigneur. Ma part, ça fait 37 ans que j'avance avec lui. Le jour où il m'a saisi, oh là là, mais je peux bénir Dieu. Il a commencé à bâtir dans ma vie. Quelquefois, je reste là. Et dans ma méditation ou dans ma relation avec mon Dieu, je suis obligé de lui dire, Seigneur, combien tu as été bon pour moi. Et je puis dire ce matin que de toutes les belles promesses que tu m'avais faites, Seigneur mon Dieu, aucune d'elles n'est restée sans effet. Oui, je peux dire ça dans la présence de mon Dieu ce matin. Il a eu pitié de moi. Et quand Dieu a un plan pour la vie d'un homme, et que le temps arrive où il veut mettre en œuvre son plan pour votre vie, rien ni personne ne peut l'empêcher. Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs en Christ, nous pouvons dire merci à Dieu, notre Père, de ce qu'il a commencé à bâtir
notre vie comme ses enfants. Et dans ce cadre-là aussi, il y a l'autre aspect qui va constituer l'autre apport. Si l'Éternel ne bâtit la maison, mais s'il ne garde la ville. Gardez la ville, tiens. Vous savez que Jérusalem était une ville fortifiée. Ben oui, Jérusalem était une ville fortifiée. Demandez à Néhémie, il va vous le dire. Parce qu'il était sorti de la déportation, parce qu'il avait appris que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, que les portes étaient consumées par le feu. Alors, dans ce cadre-là, il a demandé au roi des lettres de créance pour pouvoir traverser le fleuve et aller dans son pays pour entreprendre la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et il va nous expliquer pourquoi ça a marché. Parce que plusieurs fois nous voyons, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ce matin, tu n'es pas Néhémie, mais la bonne main de Dieu est sur toi. Alléluia! La bonne main de Dieu est sur toi. Alors, regardons comment les choses vont se dessiner pour Néhémie. Que voulait-il faire? Alors, il a expliqué à ceux qui étaient avec lui, mais pas à tous, à ceux qui étaient proches, la mission dans laquelle il avait été investi, et ceux qui étaient avec lui, après avoir entendu, la Bible dit, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, parce qu'ils savaient que c'était pour la bonne cause. Alléluia. Mais lorsque nous le voyons en action, il va se rendre à Jérusalem, et il va mettre tout en place le protocole pour voir commencer les travaux. Mais là où je veux vous amener, c'est que s'il y avait la muraille, il y avait aussi sur la muraille des tours, et avec la muraille et les tours, il y avait des portes, et avec les portes, il y avait les barres, et avec les barres, il y avait les verrous. Donc il fallait qu'ils reconstruisent tout ça. Et la première des portes qu'il va s'occuper, c'est la porte appelée la porte des brebis. Il y avait cette particularité, c'était par elle qu'on faisait rentrer les brebis destinées au sacrifice. Comme s'il voulait montrer premièrement que ce qui avait de l'intérêt premier, c'est ce qui devait revenir à Dieu. Et cette porte des brebis, elle était située d'une manière à ce qu'il y avait la tour de Méa, et puis il y avait une autre tour dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir tout à l'heure. La tour de Hananéel, merci Seigneur, alléluia. La tour de Méa et la tour de Hananéel, c'était les deux tours qui entouraient la porte des brebis. Pourquoi des tours, pasteur gentil? Et pourquoi justement la porte des brebis? Il y avait deux tours. Mais là, frère et soeur en Christ, nous sommes sur le terrain important de la qualité de la sentinelle qui est placée sur la tour. Ah oui, la sentinelle placée sur la tour, vous le savez, il avait entre autres trois grandes responsabilités. La première responsabilité de la sentinelle, c'était de veiller à l'arrivée d'éventuels ennemis. Discernement pour regarder si l'ennemi arrive. Deuxième responsabilité, avertir le camp pour se préparer à la bataille. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Mais ces deux responsabilités ne servaient à rien s'il n'y avait pas une qui était particulièrement importante, et je dirais même que c'était la principale. La première responsabilité de la sentinelle, c'était de veiller sur elle-même. Ben ouais, si je suis sentinelle et que, étant à mon poste, je suis gagné par le sommeil, l'ennemi peut arriver. Non seulement il y aura une invasion, je n'aurais pas fait mon travail d'avertir le camp, pourquoi je n'aurais pas discerné l'arrivée de l'ennemi? Vous avez dit, frères et sœurs en Christ, que quand Dieu nous place dans la vie chrétienne, ou quand Dieu bâtit, eh bien, il nous montre que nous avons d'abord à veiller sur nous-mêmes. Garde-toi, dit l'apôtre Paul à Timothée. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, mais tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Ce matin, tu dois veiller sur toi-même.
Attention, n'allez pas dire que parce que je t'y ai dit, il faut que je surveille mon frère. Hein? Non, j'ai pas dit surveiller, j'ai dit veiller sur.
C'est pas la même chose.
Et dans ce cadre-là, frère et soeur en Christ, il y en a qui sont champions pour surveiller les autres. Mais si tu surveilles les autres, tu vas négliger le fait de veiller sur toi-même. Parce que tu as une occupation que Dieu t'a pas demandé.
Mais si tu veilles sur toi-même, alors si tu pourras veiller sur ton frère.
Dans le cadre de garder la ville, laissez-moi vous dire, frères et sœurs en Christ, et je conclurai parce que je vois que le temps arrive à grands pas. Je vous ai dit deux, hein. Pour ce matin, je vous donnerai deux conditionnels divins, ça suffira. Parce qu'il y a déjà, dans ce que je vous dis, de la part du Seigneur, à boire et à manger pour nos âmes. Amen. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on a vu la muraille, on a vu les tours, mais ce matin, je n'aurai pas le temps de vous parler des portes. Et quand Dieu le permettra, nous allons prendre chaque porte de Jérusalem, sous Néhémie, et nous allons voir qu'à chaque porte, il y a une ouverture prophétique qui a rapport avec l'Église. Je vous ai un petit peu parlé de la première porte, mais quand Dieu permettra, lorsqu'il le permettra. Mais je voulais vous dire que si, ce matin, on peut dire que Dieu nous garde, nous protège, prend soin de nous, c'est pas simplement lorsque nous sommes devenus ses enfants. Certes, ça a pris effet. Mais si vous connaissez comment Dieu a fait les choses concernant son serviteur Abraham, dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, Abraham, après ces événements, puisque Abraham revenait des victoires, eh bien, des rois de Sodome, il avait remporté la victoire, Dieu lui avait donné la victoire, il avait ramené son neveu, et le roi de Sodome voulait faire avec lui un marché. Le roi de Sodome lui a dit, eh bien, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Satan n'a pas besoin de richesses, mais il a besoin des âmes. Abraham lui a dit non, pas de marché. Je ne prendrai rien. Pas même un cordon de souliers. De peur que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. L'enfant de Dieu ne cherche pas de richesses, ni du côté du monde, ni du côté du diable, à plus forte raison. Mais il attend tout de Jésus-Christ. Il attend tout de Dieu son Père. Et quand je vois que je suis dans de telles dispositions vis-à-vis de lui, cela lui plaît. Alors, Dieu va dire à Abraham, Abraham, Genèse 15, verset 1er, je suis ton bouclier. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Et ta récompense sera très grande. Pourquoi? Abraham a expérimenté quelque chose de particulier, justement en revenant de la victoire des rois de Sodome. Un personnage nommé Melchisédek est apparu. Il est venu avec de l'huile et pas de l'huile. Il est venu avec du pain et du vin, pas de l'huile. Du pain et du vin. Et il a béni Abraham par le Dieu très haut. Et quand la proposition lui est faite, il va reprendre la même expression devant les rois de Sodome. Il va dire, quel est là, Omer? Je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut. Je ne prendrai rien. Pas même un cordon de souliers. Il va dire, pas de compromis. Je sais qui je suis et je sais qui je sers. Mais là où je vais vous amener, frères et sœurs en Christ, c'est que quand Abraham reçoit cette parole de Dieu, je suis ton bouclier, il porte déjà en lui les promesses. Là, quelles deux? La première, dans Genèse 12, 2, je ferai de toi une grande nation. Cette grande nation, c'est Israël. Mais Dieu lui avait dit aussi, pour élargir le champ, toutes les nations de la terre seront bénies au travers de ta postérité. Et plus tard, une fois qu'il a offert Isaac, Dieu va reprendre la même promesse. Il va lui parler dans cette alliance d'une postérité céleste qu'il mettra avant la postérité terrestre. De sorte que ce matin, nous sommes bénis avec Abraham le croyant, mais par la filiation christique ou en Jésus-Christ, si vous préférez. De telle manière que nous sommes au bénéfice de cette promesse,
que Dieu fait à Abraham, je suis ton bouclier. Ça veut dire que je me mettrai toujours entre l'ennemi et toi.
Dieu va toujours se manifester comme un bouclier pour se mettre entre l'ennemi et son enfant. Écoutez, c'est Dieu qui garde la ville, hein. Et Dieu nous garde ce matin. Il garde. Alors, concluons. Quand je lis cela, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'il ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc cela veut dire que je conclue, Dieu bâtit ce qu'il garde et il garde ce qu'il bâtit. Mais oui. Alors qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Me confier en lui. M'attendre à lui. Marcher dans ses voies. Lui faire confiance. De telle manière que l'ennemi de mon âme, quel que soit ce qu'il entreprendra, qu'il essaiera avec moi, il comprenne qu'avec celui-là, je ne peux pas arriver à mes desseins. Pourquoi? Je sers un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible me dit que Jésus-Christ, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a vaincus en triomphant d'elles publiquement en spectacle à la croix. Ceci, afin que là où le jugement de Dieu devait tomber sur moi, pécheur, sa grâce m'a été donnée avec abondance. Là où le péché avait abondé, dites avec moi, la grâce a surabondé avec la foi en Jésus-Christ. Alors si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'il ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et selon ce que Dieu permettra, nous allons voir la prochaine fois, d'autres conditionnels divins. Alors si je dois vous en parler la prochaine fois, je ne m'engage pas à vous en parler aujourd'hui. Laissons ça pour la prochaine fois. Prions le Seigneur.